Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 3 mai. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, une semaine un petit peu différente des semaines habituelles, puisque y avait tout simplement un jour férié. Donc je pense que ça a dû vous permettre de souffler un petit peu. J'imagine que vous ne faites pas le pont. Quand on est entrepreneur, ça me semble surprenant, on ne fait jamais le pont, on est toujours en train de bosser, toujours en train d'avoir des idées, et c'est bien normal, et c'est pareil pour moi, bien évidemment, puisque y a toujours des idées, des projets, des choses qui sont en train de se mettre en place, et comme vous le savez, je commence toujours mon épisode de mon podcast, toujours par ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? J'essaie de le partager avec vous, tout simplement parce que j'essaie de vous donner une inspiration. Comme moi, j'aimerais avoir une inspiration de quelqu'un qui m'inspire. Aujourd'hui, je vous le dis, j'ai trouvé personne, c'est con à dire, mais je n'ai pas trouvé grand monde aujourd'hui qui m'inspire, tout simplement parce que moi, je suis quelqu'un qui est très qui aime bien tester, qui est curieux, alors qui écoute. Mais j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un qui m'a inspiré. On m'a déjà posé la question, qui c'est qui m'avait inspiré? Éventuellement, un gars comme Bernard Tapie, c'était quelqu'un qui m'avait inspiré par sa carrure, son culot, que moi je n'aurais pas. Parce que c'est des choses que moi je ne sais pas faire, être culotté, la carrure que lui a, c'est juste de la folie. J'ai jamais vu quelqu'un qui a une carrure aussi forte. Donc lui, on peut dire ouais, il m'a inspiré. Mais après, honnêtement, tout ce que je vois à droite à gauche, c'est beaucoup de bullshit, beaucoup de blabla. J'espère d'ailleurs que je tombe pas dans ce délire-là parce que c'est pas ce que je veux. J'essaie d'être le plus transparent, le plus neutre possible. Enfin neutre non, mais j'essaie surtout d'être transparent et surtout d'être le plus simple possible, et je pense que c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'ils aiment, c'est cette simplicité, et j'essaie vraiment de la garder au maximum. Moi, honnêtement, si vous m'écoutez, vous me suivez depuis quelques temps, vous remarquerez ce qui m'anime au quotidien, c'est transmettre, c'est parler de mes projets, c'est parler de mes idées. Mais on peut parler des vôtres aussi, qu'on soit clair. On peut parler des vôtres. Et d'ailleurs, si un jour vous voulez être interviewé sur mon podcast, parce que vous avez des choses à dire sur l'argent, sur la liberté financière, vous voyez, tous ces sujets-là, parfois qui sont un peu tabous, je suis bien preneur. Et avec grand plaisir, si vous avez des choses à dire, des anecdotes ou votre expérience, je suis vraiment super preneur parce que j'adore ça. Et ça, pour le coup, ça me plaît énormément. Par contre, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est lire des bouquins parce que alors en ce moment, c'est vraiment compliqué parce que je trouve pas le temps. Je trouve pas le temps. C'est juste que j'ai pas mis mon temps là-dessus, mais pourtant, j'adore ça parce qu'il y a tellement de bons bouquins. On pourra en reparler parce que j'en ai plusieurs. J'en avais acheté 8, je crois, avant de partir en Thaïlande. J'ai dû en consommer que 2 et encore, je les ai pas finis. J'aime bien démarrer 2 bouquins en même temps. Non, mais il y en avait un qui était un petit peu en petit format et l'autre qui était en format un peu plus gros. Et voilà, et je l'ai trouvé assez intéressant, mais j'ai hâte de les poursuivre parce que ça m'inspire aussi, parce que eux, pour le coup, ils m'inspirent. Pour le coup, ils m'inspirent parce qu'il y a des vraies histoires derrière. Et d'ailleurs, en parlant de livres et en parlant d'histoires, j'en ai vaguement parlé, j'ai très légèrement teasé la semaine dernière. Oui, je suis en train de travailler sur un livre qui sortira, je pense, dans 6 mois. Ça prend beaucoup de temps de faire un bouquin. Donc, je suis assisté, bien évidemment. C'est pas moi qui fais ça avec ma petite plume. Je suis assisté par des rédacteurs, par des monteurs, il y a toute une... je vais être produit et édité par une édition, une édition de livres, tout simplement. Non, j'en reparlerai un peu plus tard. Donc, c'est des gens qui m'accompagnent dans la rédaction, dans la formulisation, dans le titre. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que sur YouTube, sur Insta, etc., j'ai demandé un peu votre avis sur les titres et tout. L'objectif, si vous voulez, c'est que ce livre devienne un best-seller. Et d'ailleurs, pour avoir un tout petit peu sondé mon marché, je suis convaincu qu'il va le devenir parce qu'en fait, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Il n'y a personne qui a sorti un bouquin dans cette thématique-là, donc la thématique d'Airbnb, la thématique de la courte durée. Il y a bien des Américains qui ont fait pas mal de choses, mais en France, il n'y a rien en fait. Il y a des bouts de trucs, mais c'est de l'amateurisme total. C'est, c'est du Airbnb pour les nuls, quoi. Oui, c'est pas du tout représentatif de ce que je peux dire au quotidien sur YouTube, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est, j'espère, un best-seller qui va sortir. Alors, je le fais pas pour l'argent, hein, qu'on soit clair. Je le fais par passion, parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, j'aime transmettre. Encore une fois, ça fait partie des canaux que je n'utilise pas aujourd'hui. J'utilise YouTube, j'utilise Instagram, j'utilise le podcast. Là, c'est le livre. Je suis en train, et justement, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis en train de réfléchir à créer un autre YouTube, en fait, qui serait une autre chaîne YouTube, qui serait plus du daily. Ce serait du Sébastien Daily, on va dire. Donc là, ce serait plus format un peu vlog. Donc vlog où je vous accompagne dans mon quotidien, où vous traversez, enfin, vous m'accompagnez dans mon quotidien, ce que je sais que vous aimez bien. Et aussi en même temps, des thématiques, des contenus très short sur des choses, des aspects spécifiques que parfois je donne sur Instagram, mais format Instagram, c'est pas forcément très bon. Ou alors sur le podcast, bah là, ça serait au format vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui peut être sympa ou pas, ou si c'est nul, vous n'avez rien à foutre, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je ne voulais pas le mettre sur la chaîne principale, parce que la chaîne principale, c'est quand même une chaîne assez sérieuse où c'est très formel, etc., sur tout ce que je peux dire, et je ne voulais pas casser ça. Par contre, je pense que sur une chaîne un peu plus daily, avec du quotidien, du vlog, puis en même temps et du contenu, etc. Je pense que ça peut être pas mal. C'est plus des contrats que là, je prends la petite caméra et je l'emmène avec moi, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est voilà, c'est complètement ouvert. Voilà, en tout cas, sur quoi je travaille en ce moment. Toujours aussi sur Guess Lucky, toujours. C'est un énorme chantier. Je me suis embarqué dans un truc de dingue. C'est un gros chantier. Alors certaines personnes disent oui, l'application elle est pas complète. Ouais, enfin les amis, c'est une application qui vous coûte pas très cher. Je vous offre des mois gratuits. Vous me demandez ce que vous voulez. Je suis cool. Je vous dis oui à tout. C'est juste que voilà, faut aussi comprendre que j'essaie de construire quelque chose. Je résous les bugs, on va dire, urgents, mais après sur les améliorations, etc., ça peut prendre un peu de temps et voilà. Bon, moi je le vois comme ça. Après, je peux comprendre que certains veulent quelque chose de très carré et tout dès le départ, mais bon, les trucs très carrés aussi, on sait combien ça coûte, hein. Ça coûte des centaines d'euros tous les mois dès que vous avez pas mal de logements. Là, c'est pas le cas, vous êtes sur des petits forfaits. Vous payez 30 balles, 50 balles, 60 balles par mois et vous pouvez mettre tous vos appartements et vous gérez tous vos appartements. Enfin, je trouve que l'investissement, il est quand même pas lourd, mais bon, voilà, il en faut pour tout le monde. C'est pas grave. Je vous l'ai dit, je vais participer au rendez-vous de location saisonnière le 31 mai prochain. Donc, bienvenue. Vous le savez, il y a un code réduction. Qui est un code réduction. D'ailleurs, je vous ai prévu un code. Je ne sais même plus ce que c'est. Le code réduction, je ne sais plus. Vous me demanderez si vous voulez participer. Voilà. Et puis, je dois avoir quelques places gratuites pour certains. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous vouliez venir et que vous voulez que je fasse un petit cadeau. J'essaierai de me démerder pour vous, de me mettre en quatre. Voilà, pour vous. ça, c'était le début du podcast. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque aujourd'hui sur un sujet qui me plaît bien. J'hésitais au début. Je voulais vous parler de combien il fallait comme capital pour être rentier, pour devenir rentier. Mais j'hésitais aussi avec un autre truc qui peut être sympa. C'était combien il faut épargner et quel capital il faut au départ pour vivre de ses rentes à la retraite. Indirectement, je me dis que c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et on va essayer un petit peu d'en discuter justement dans ce podcast-là. Alors oui, c'est possible d'être rentier. Oui, c'est possible sans être forcément héritier. Par contre, il va falloir très vite arriver à déterminer qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre et estimer votre besoin personnel, bien évidemment. Donc là, ça va être faire un point déjà sur vos dépenses personnelles parce que vous avez plein de dépenses au quotidien. Et à mon sens, c'est déjà se concentrer effectivement sur son récurrent, qu'est-ce qui tombe tous les mois, qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien. Et puis aussi, imaginez que si un jour vous étiez rentier, vous auriez très certainement un autre niveau de vie ou du moins vous fonctionnerez différemment. C'est-à-dire que, par exemple, vous ne prendrez pas le matin le métro ou la voiture pour aller travailler, mais peut-être que vous allez voyager. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura des dépenses qui seront peut-être différentes. Donc, il faut estimer effectivement ces dépenses mensuelles sur son train de vie, mais également aussi sur le futur train de vie que vous auriez, enfin comment vous allez vous déplacer, comment quelles vont être vos journées types si vous étiez rentier, tout simplement. Alors, il y a des outils sur Internet, j'en ai utilisé plusieurs que j'ai trouvé qui sont plutôt bien, qui en fait vous renseignez la rente mensuelle que vous souhaitez obtenir et vous renseignez en face, bien évidemment, on va dire le taux annuel de placement, parce que bien évidemment qu'il va falloir placer votre argent. Une autre donnée aussi qui est à prendre en considération, c'est l'inflation. Bah, et parce que forcément que chaque année il y a une inflation. Donc c'est ce qui fait que votre argent, tout simplement, n'a pas la même valeur dans les années qui vont venir. Et pour vous donner un exemple, parce que j'ai trouvé un exemple qui était plutôt intéressant, c'est que si, par exemple, vous aviez imaginé avoir 500 000 euros, imaginons, vous dites, dans 25 ans, je veux avoir 500 000 euros, ça revient à dire qu'aujourd'hui, il faut avoir 200 000 euros. C'est-à-dire que ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui avec 200 000 euros sera dans 25 ans le même que 500 000 euros. Et encore, quand j'ai intégré ce calcul-là, j'ai intégré également donc l'inflation, hein, bien évidemment, à 3%. Donc, ça dépend aussi de l'inflation. Alors, c'est la moyenne 3%, mais on l'a vu ces dernières années, on était sur une inflation à 5-6%. Là, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si vous voulez, par exemple, dans 30 ans, 500 000 euros, donc de pouvoir d'achat, en fait, c'est comme si c'était égal à 200 000 euros d'aujourd'hui avec une inflation à 3%. Donc, il faut vraiment que quand vous réfléchissiez à cette configuration-là, que vous preniez en tête qu'il va falloir placer votre argent, c'est évident. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, si vous voulez un revenu mensuel de 3 000 euros par mois, de manière récurrente, avec un taux annuel à 5%, il vous faut un capital de 720 000 euros. Mais attention, c'est brut, hors fiscalité, et qui ne s'est pas indexé sur l'inflation. Donc, si on prend l'inflation à 3%, c'est comme si en fait vous aviez un taux annuel à 2%. Et là, si imaginons, je refais le calcul, donc justement, et j'intègre l'inflation, eh bien là, ce n'est plus 720 000 euros qu'il vous faudrait, c'est 1 800 000 euros. C'est-à-dire que pour avoir la même pouvoir d'achat, on va dire, dans les années qui vont suivre, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Vous doutez bien qu'il faut vraiment intégrer l'inflation dans, tout simplement, votre vie. Donc là, on voit bien que ce n'est plus du tout la même. Là, c'est 1,8 million. Donc 3 000 euros par mois, il faut avoir 1 800 000 euros pour pouvoir se faire ça. Alors après, il y a un autre petit tableau qui est assez intéressant. C'est un tableau justement avec en face l'argent que vous souhaitez disposer tous les mois et l'argent que vous souhaitez disposer tous les mois et donc le taux qui est en face et le capital qui est nécessaire. Donc par exemple, si vous voulez une rente de 1 000 euros par mois, ce qui représente à peu près 12 000 euros par an, en fait, il faut détenir un capital de 300 000 euros et le placer à 4% annuel pour pouvoir arriver à ces chiffres-là. Mais encore une fois, ça n'intègre pas l'inflation. Donc, imaginons, on rajoute donc 7%, 3% sur les 4% pour obtenir. En fait, tout simplement, il va vous falloir, donc 4%, donc ça fait du 1%, il va vous falloir un capital d'au moins, alors là, je ne l'ai pas ici dans ce calcul-là, mais on est quasiment à 800 000 euros pour pouvoir se dire, imaginons, je veux donc sortir 1 000 euros. Donc là, je vais le refaire avec mon petit calcul. 1 000 euros. Voilà. Eh bien, en fait, il faudra placer tout simplement à 2%, il faudra un capital de 600 000 euros. Si vous êtes sur un taux annuel de capital à placer à 2%, imaginons vous trouvez un 3%, donc avec l'inflation, ça fait 0. Eh bien, ça sera plutôt un capital donc de 400 000 euros. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un raisonnement qui est assez simple que je vous donne ici et ça se heurte à une douloureuse réalité. Les rendements donc, du tableau que j'ai pu vous donner ici sont incompatibles avec des produits garantis en capital. Des rendements élevés correspondent aussi à un risque élevé. Hein, votre souhait de ne jamais piocher dans le capital vous impose un risque élevé et donc un risque de baisse du capital. C'est donc assez contradictoire. Alors justement, on va voir ensemble une autre approche consiste à se dire pendant combien de temps on peut piocher dans un capital avant qu'il ne s'épuise. Et donc là, on en revient justement au sujet, à l'autre sujet qui était, imaginons que c'est pour un capital retraite, quel capital il vous faut pour se dire, je vais pouvoir piocher dedans. Donc imaginons, vous placez à 3% par an. Donc en fait, finalement, c'est comme si vous le placiez à rien du tout parce qu'avec l'inflation, vous perdez les 3%. Donc, on va prendre, imaginons, vous placez à 5%. Donc, moins l'inflation à 3%, on est donc à 2%. Imaginons, vous êtes, donc là, je vais plutôt prendre l'exemple de vous placer à 3% et avec l'inflation, j'ai envie de vous dire, il ne va pas vous rester, simplement, ça va s'annuler. Si vous placez, par exemple, donc à 3% et que vous retirez, imaginons, 2000 euros tous les mois, un capital, par exemple, de 100 000 euros va durer 4 ans. Un capital de 200 000 euros va durer 9 ans, un capital de 300 000 euros va durer 15 ans et un capital de 500 000 euros va durer tout simplement 31 ans si vous retirez 2 000 euros avec un placement à 3%. Et encore une fois, là-dedans, je n'ai pas intégré l'inflation. L'idéal, ça serait de, pour avoir réellement un 3% net, ça serait de placer plutôt à 6%. Alors, beaucoup de personnes vont vous dire, aujourd'hui, on peut aller chercher du 8-10%. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces rendements-là, ça reste des rendements, mine de rien, où on a mis le curseur risque assez fort. Et plus vous vous rapprochez justement d'une période de retraite, plus au contraire, vous cherchez vraiment à être super light. Et généralement, être super light, ça signifie, et si déjà vous l'étiez, c'est vraiment très très bien, si vous êtes par exemple ne serait-ce que 1% de plus que par exemple l'inflation, donc imaginons vous trouvez des rendements à 4-5%, franchement c'est déjà très très bien parce qu'en fait vous avez mis le curseur risque au plus bas pour avoir ce rendement et être quand même légèrement au-dessus de l'inflation. C'est bien ça le principe. Parce que quand vous commencez à monter sur du 8-10%, on reste sur des produits qui sont assez risqués et qui justement nécessitent généralement la globalité du capital. Ça veut dire qu'on a du mal à pouvoir retirer de ce capital pour pouvoir garantir justement les 8-10%. Donc, on va continuer justement. En pratique, pour atteindre des taux supérieurs aux taux sans risque, actuellement proches de 0%, vous devrez prendre donc du risque, par exemple, investir dans des actions. Cela entraîne des fluctuations justement sur le capital. Or, ces fluctuations augmentent le risque d'arriver à court de capital et ce, même si la tendance à long terme est positive. En effet, dès que l'on retire donc du capital, la séquence des rendements annuels, l'ordre dans lequel ils surviennent, a une importance. Un rendement régulier de 4% préservera mieux le capital qu'un rendement moyen de 4% avec des variations. Moins 2% une année, plus 10% la suivante. Et c'est le principe, par exemple, des actions. Et notamment, quand je vous le dis, quand moi j'investis sur des actions en S&P 500, on est sur un rendement moyen au fur et à mesure des années. On n'est pas sur des rendements annuels garantis. Calculer la durée de vie, la durée de survie d'un capital dans un monde incertain est plus que complexe que cela en a l'air. C'est le métier des assureurs lorsqu'ils servent des rentes viagères. Beaucoup a été écrit sur le sujet, notamment dans le monde anglo-saxon, où les thématiques de planification financière et de préparation à la retraite sont cruciales. Compte tenu d'une retraite par répartition peu développé, il est impossible de résumer tout ce domaine d'études en quelques lignes. Retenez surtout que le tableau représente un ordre de grandeur plutôt qu'une vérité. Il tend à surestimer la durée de vie des capitaux et ce d'autant plus que le taux est élevé. Alors justement, on va parler maintenant du SWR qui est le taux de retrait sécurisé du capital. C'est aussi le Trinity Study, la fameuse règle des 4%. Donc, s'il ne fallait retenir qu'un chiffre lorsqu'on veut devenir rentier, c'est la SWR, la Safe Withdrawal Rate. le taux de retrait sécurisé du capital. Autrement dit, la proportion de votre capital que vous pouvez consommer chaque année en limitant la probabilité qu'il ne s'épuise. Lorsqu'on parle de capital, on parle ici d'un portefeuille correctement diversifié entre actions et obligations dans lequel on pioche périodiquement une somme définie. On accepte donc un risque en capital et on consomme le capital, mais on attend de ce dernier qu'il progresse et compense nos retraits. C'est ça en fait l'objectif. Plus vous retirez, plus vous augmentez votre risque de ruine précoce. Moins vous retirez, plus vous augmentez la durée de vie de votre capital. C'est assez simple à comprendre. Parfois, vous retirerez davantage que la progression de votre portefeuille au cours de l'année, et c'est normal. Donc, les professionnels sont très divisés sur ce qui constitue un SWR sain. Certains estiment qu'il faut se restreindre à 2%, d'autres que l'on peut monter à 5% par an. Tout dépend également de votre objectif. Est-ce que c'est consommer tout le capital ou avoir quelque chose à transmettre? Parce que aussi, il faut penser à le futur et vos enfants. Et aussi l'allocation d'actifs utilisés. Le sujet, c'est un sujet qui est très largement débattu. C'est des sujets qui reviennent assez fréquemment. Et on a aussi la règle donc, des 4%, qui est le Trinity Study, mais il faut quand même s'en méfier. En matière du taux de retrait, méfiez-vous des raccourcis. Certains conseillers en gestion de patrimoine évoquent la règle des 4% comme s'il s'agissait d'une vérité. En fait, il n'en est rien, puisque ce chiffre est tiré de Trinity Study, surnom de l'étude publiée en 1998, qui a défini le concept de SWR et qui utilise une étude probabilistique dite de Monte Carlo pour viser 95% de chances de succès à un horizon de 30 ans. Dans ce modèle, un succès est défini comme un capital résiduel positif après 30 ans de retrait. Autrement dit, vous avez aujourd'hui 30 ans, avoir dilapidé la quasi-totalité de votre capital à 60 ans correspond à un succès pour cette étude. Mais ce n'est pas forcément votre définition du succès financier. Moi, le premier. L'environnement financier actuel appelle d'autres facteurs de prudence. Par exemple, l'étude utilise des rendements obligataires bien plus élevés que ceux qui prévalent aujourd'hui, d'où des révisions récentes plus conservatrices. La Trinity Study a établi des méthodes de calcul de taux de retrait optimaux, mais elle n'édicte certainement pas une règle des 4% qui garantirait à 100% de conserver un capital éternellement, loin de là. Pourtant, ça apporte quelques éléments d'intérêt. Ça permet d'être souple dans la dépense, de disposer d'une épargne de précaution et qui joue le même rôle. Et l'allocation d'actifs joue un rôle crucial puisque c'est une part majoritaire d'actions, contribue à améliorer la gentilité du capital malgré la volatilité que celui-ci entraîne. Mais ce n'est que de la théorie. Et on va donc revenir maintenant au concret. Donc, nous allons considérer par exemple un SWR à 3,33%. Donc, le SWR, vous l'avez compris, c'est le taux qui nous permet de retirer sur le capital, donc pour nous, tout en laissant l'argent continuer à travailler. Alors pourquoi ce chiffre? En fait, il reste dans la fourchette du raisonnable et il facilite les calculs, puisque le capital nécessaire s'élève à 360 fois vos dépenses mensuelles. Ainsi, si vous comptez retirer 1 000 euros par mois, il faudra donc 360 000 euros avec ce SWR. Donc, un autre tableau a été refait. Et je vais vous donner donc par exemple un exemple. Si vous estimez qu'un SWR de 3,33% est raisonnable et que vous souhaitez retirer 1 000 euros par mois, et bien en fait, il va vous falloir un capital de 360 000 euros. Ce tableau est le même que donc le premier tableau que j'ai pu vous donner juste avant. Par contre, ce qui diffère, c'est l'usage que l'on fait du capital. Dans le premier cas, on cherchait des placements qui distribuaient un revenu mensuel ou annuel, obligations, immobilier locatif, etc., afin de jamais toucher au capital. Le problème était que ces placements n'existaient pas. Ici, on prélève régulièrement dans le capital, et donc là, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Alors, maintenant, quelle épargne et quel effort d'épargne pour atteindre justement ce capital donné? Donc, il reste à rassembler donc, toutes ces informations. Et l'idée, c'est combien épargner par mois pour établir un capital de 100 000, 200 000 ou 500 000 euros. Donc, l'idée, c'est, et un tableau a été encore une fois fait donc ici, tout simplement, si vous placez par exemple à 4% pour atteindre 100 000 euros, en fait, ça revient, et si vous placez à 4% sur 25 ans, ça revient par exemple à placer 194 euros tous les mois. Si vous souhaitez obtenir 100 000 euros en partant complètement de zéro, il faut placer 242 euros par mois à 5% net pendant 20 ans, ou encore placer 607 euros par mois à 6% pendant 10 ans. Et puis, bien évidemment, que tout ça, il y aura la fiscalité qui va rentrer en ligne de compte, bien évidemment, puisque tous les chiffres que je vous donne ici sont des chiffres hors fiscalité et hors inflation. Alors maintenant, si on transpose ça justement à la retraite, et je me suis basé sur un petit calculateur assez simple. Donc je suis parti par exemple, je me suis basé sur ce que j'ai pu trouver. Hein, donc on va partir, imaginons, sur la durée de votre retraite. Donc imaginons votre espérance de vie à 65 ans est d'environ 25 ans. Donc imaginons, vous dites, moi quand j'aurai 65 ans, je vais risquer de mourir à 90 ans. En gros, c'est ça votre espérance de vie, quoi. Donc, en gros, ce qu'il faut, c'est se dire, mon capital, il faut qu'il tienne au moins pendant les 25 ans et peut-être qu'après, limite, prévoir peut-être un capital justement de transmission que vous pourriez donner à vos enfants. Donc, je pense qu'il y a plein de simulations qui peuvent être faites. Hein. Mais imaginons, vous partez vous souhaitez par exemple, on va prendre un exemple concret. Combien dois-je avoir épargné à 65 ans, espérance de vie de 65 ans, pour générer 3000 euros de retraite mensuelle, indexée sur une inflation cible de 3% par an pendant 25 ans, tout en conservant au terme de ces 25 ans un capital de 1 million d'euros, si vous souhaitez par exemple transmettre 1 million d'euros à vos enfants? Et bien en fait, ce capital de 1 million d'euros, dans 25 ans, c'est équivalent à un capital de 411 986 euros aujourd'hui, avec une inflation à 3% par an pendant 25 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos 1 million d'euros que vous parlez aujourd'hui, dans 25 ans, en fait, ça revient à dire que c'est 411 000 euros finalement, parce qu'on en est à une inflation de 3%. Donc, vous voyez, c'est, si vous parlez de 1 million d'euros, 1 million d'euros dans 25 ans, ça correspond à 411 000 euros aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'il faut aussi intégrer ça dans votre raisonnement. Imaginons que vous prenez un capital qui sera rémunéré autour de 4%. C'est finalement que 1% de mieux que l'inflation. Et bien entendu, ce qu'on cherche tous, c'est le meilleur rendement. Et ce qu'on cherche tous, c'est avoir un rendement qui est supérieur à l'inflation. Est-ce que c'est possible ? Oui, mais est-ce que c'est sans risque ? Oui, si vous cherchez des placements d'épargne type fonds d'euros, assurance vie ou des obligations, où là, on sait que c'est globalement très safe, mais par contre, derrière, on aura des rentabilités qui vont être très faibles aussi. Et en fait, l'équation, elle n'est pas si simple à résoudre, parce que vous allez rapidement vous rendre compte à quel point il est difficile de générer un rendement satisfaisant. C'est la raison pour laquelle je crois qu'obtenir un rendement net supérieur à l'inflation est déjà, à mon sens, un exploit. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout dépend comment vous réfléchissez, parce que vous comprenez mieux pourquoi, justement, la retraite par capitalisation ne peut être qu'un complément à la retraite principale qu'est la retraite par répartition. Dans les faits, ceux d'entre vous qui n'avez pas de retraite par répartition et ne devez vivre que des revenus de votre patrimoine, vivez de manière très frugale avec l'impression de pauvreté, tant la situation est difficile. C'est-à-dire qu'on l'a vu notamment aux États-Unis, tous ceux qui se disent « moi, je vais vivre grâce à la capitalisation », c'est très difficile en fait. C'est vraiment dur, il faut vraiment avoir un très gros capital pour pouvoir derrière lutter contre l'inflation et en même temps chercher tout simplement des rendements qui soient supérieurs à l'inflation, tout en consommant son capital. Donc, c'est pour ça que généralement, on parle plutôt de retraite complémentaire, qu'on se constitue grâce à ça, plutôt que de retraite principale. Parce que nous, en France, le gros avantage, c'est qu'on a la retraite par la répartition. C'est-à-dire que c'est une retraite globale qu'on va tous toucher. Donc, il faudra valider un certain nombre de trimestres en France pour pouvoir y prétendre. Donc, vraiment, pour moi, je trouve que c'est quand même un gros plus. Mais par contre, ce qui est super important, c'est vraiment de prévoir tout de suite sa retraite complémentaire. C'est pour ça que notamment tous ceux qui se plaignent de leur retraite, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas ce schéma. Ils n'ont pas compris que le gouvernement, ce qu'il leur donne, c'est une base. Mais ensuite, c'est à eux de construire le reste, en fait. Alors, avec 2 à 3 millions de patrimoine, vous avez un train de vie inférieur à celui d'un couple de 4 moyen qui cumulerait 5 à 6 000 euros de retraite mensuelle avec un niveau de sérénité inférieur. En réalité, il faut accumuler plusieurs millions pour retrouver la sérénité financière d'un cadre moyen à la carrière complète et la retraite généreuse. La vraie vie est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut trouver sur Excel. Bref, la retraite par répartition vive ceux qui ont compris que la meilleure manière de préparer sa retraite étant de travailler beaucoup, de cotiser beaucoup et pas de chercher à être rentier en vivant des revenus de son patrimoine. Moi, pour moi, c'est l'association des deux qui fait que derrière, vous pourrez avoir une excellente retraite. C'est effectivement cotiser. Et même quand on est entrepreneur, on cotise. Donc, vous pouvez très bien cotiser et être salarié de votre propre entreprise ou être TNS, par exemple, et derrière, payer vos cotisations sociales et tout simplement votre retraite, même si on sait qu'elle ne sera pas très élevée. Le fait est qu'il y aura quand même un fonds de base qui va tomber tous les mois. Et après, ce que vous aurez construit tout autour, bah, vous permettra de venir grappiller un petit peu plus. Alors, pensez aussi que l'immobilier et les revenus locatifs vont vous garantir une retraite. Vous le savez, c'est fortement lié à la fiscalité. Il y a aussi des frais de gestion. Il y a des frais aussi pour faire en sorte que votre immobilier soit toujours bien entretenu. Donc, dans les faits, l'immobilier, se dire que derrière, ça va nous permettre d'avoir une retraite complémentaire, honnêtement, on parle de très peu d'argent, je trouve. Donc, l'immobilier, c'est très bien, oui. Mais se dire que j'ai un ou deux appartements, ça fera ma retraite, honnêtement, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Ça viendra peut-être l'améliorer, mais on sait que la fiscalité va venir vous, malheureusement, l'assombrir. Et on sait aussi que ça passe par des frais de gestion. On sait aussi que ça passe par des frais de rénovation, de remise au goût du jour de votre appartement. Et puis, il y aura tout un lot d'incidents. Il y aura peut-être des impayés. Il y aura peut-être des vacances locatives. Tout ça fait que ça rend compliqué l'immobilier. Alors que quand vous investissez sur des produits beaucoup plus des obligations d'État, par exemple, ou sur des assurances vie qui vous garantissent, par exemple, du 4% ou du 5%. Certes, c'est très faible, mais en fait, vous n'avez rien à faire et c'est du quasi-garanti. C'est du quasi-garanti. Et ça, c'est très bien, justement, pour venir créer sa retraite. Après, vous pouvez très bien aller sur du plus risqué comme moi, c'est-à-dire investir sur des actions en bourse, mais là, il faut avoir une projection assez lointaine parce qu'on sait que le rendement moyen sur une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années sera peut-être supérieur à 10%. Mais si vous avez aussi besoin de votre capital, bah en fait, ça va être compliqué parce qu'il faudra quand même un capital très important au départ pour pouvoir piocher dans le capital tout en continuant à faire en sorte que le capital travaille pour pouvoir payer les années à suivre. Et l'équation est beaucoup plus difficile que vous ne le croyez. Donc, à mon sens, plus vous êtes jeune, bah plus effectivement il faut aller sur des choses qui sont plus risquées parce que vous avez le temps derrière, vous avez le temps d'attendre, et plus vous arrivez effectivement sur des âges avancés où là il faut plutôt chercher au contraire à prendre des rendements plutôt safe, certes qui ne sont pas énormes, mais j'ai envie de vous dire malheureusement il y a encore possibilité de l'améliorer, mais effectivement plus le travail sera fait en amont, et c'est pour ça qu'un jeune, pour moi, si aujourd'hui tu écoutes ce podcast ou mes chaînes YouTube ou autre et que tu écoutes tout ça, normalement, dans 20 ans, tu me rappelles, tu me diras « Putain, Seb, mais c'était trop bien, quoi. » En fait, aujourd'hui, j'ai la vie rêvée parce que plus tu vas le faire tôt, plus derrière, mais tu vas tout péter, quoi. Tu vas tout péter. C'est sûr que si tu arrives à 50, 60 ans, ça sera plus difficile. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire, pardon, que tu ne vas pas améliorer ta situation, mais tu pars avec du retard. Tu comprends? Et on sait que l'argent se travaille avec le temps. C'est le temps qui va faire travailler l'argent. Tout en ayant une difficulté qui est en face, qui est l'inflation, qui vient détruire au contraire ton argent. Donc, on a des menaces, on a des opportunités, et plus les opportunités sont prises suffisamment jeunes, plus derrière, le résultat, il est bien entendu beaucoup plus important. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire, cet épisode de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum d'étoiles, un avis aussi, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai besoin de ça, moi. Si vous ne faites pas ça, c'est la source de motivation pour moi. Donc merci, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, ça c'est vraiment cool. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode. N'hésitez pas aussi, si vous voulez que je parle de certains sujets, je peux le faire bien évidemment. Allez, portez-vous bien, passez un excellent week-end et on se dit à très vite.